Écho des colonies, Jocelyne Moussaou.
Merci de rejoindre à nous pour l'actualité économique du pays et Betty Franklin Luchaka nous emmène les nouvelles.
Les habitants de Tchila sont en conflit avec une entreprise locale dans le Bas-Congo. Pourquoi? Nous en saurons un peu plus tout à l'heure dans deux minutes avec Guy Roger Nyampala. Et puis il y a reprise des activités de la Congolaise des hydrocarbures au Kasaï oriental après 4 ans d'interruption. Nikien Poutou nous fait revivre cette ambiance à la rouverture de la station service de Mbujimayi. C'est dans la seconde partie de cette émission.
Et dans cette seconde partie de l'émission, nous recevons Michel Sobouet qui vient d'être nommé administrateur délégué à la Fédération des artisans des petites et moyennes entreprises FENAPEC en sigle. Nous le suivons dans 10 minutes. D'abord, un tour économique du pays. La Société financière internationale se propose de soutenir les petites et moyennes entreprises.
Cette structure de la Banque mondiale qui travaille avec le secteur privé l'a fait savoir aujourd'hui auprès des responsables de la Fédération nationale des artisans des petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC en abrégé. Elle a mobilisé des ressources pour financer les PME et à des conditions meilleures que celles appliquées par les banques. La SFI sollicite également un partenariat avec la FENAPEC pour représenter son produit, le SME Toolkit, c'est-à-dire Small and Medium Enterprise, un logiciel de gestion des PME.
Un camion transportant environ 20 tonnes de cuivre a été intercepté à la frontière de Kipushi.
C'était hier, aux alentours de 2h du matin, à la frontière de Kipushi, à 30 km de Lubumbashi, que les FARDC ont procédé à cette interruption. Des témoins affirment que ce camion voulait traverser frauduleusement la frontière de Kipushi pour entrer en Zambie. Il s'est embourbé avec toute sa cargaison et les occupants du camion, dont le chauffeur, ont préféré abandonner le camion.
À Lubumbashi, les habitants du quartier industriel s'entraînent à la Société nationale d'électricité.
Ils sont mécontents de la nouvelle tarification de la SNEL. Nombreux se disent surpris de voir leur facture du mois d'octobre multipliée par 4 par rapport à celle des mois précédents. Ils se demandent comment payer pendant que leurs revenus mensuels n'ont pas augmenté. La semaine dernière, la même réaction a été enregistrée auprès des habitants de la ville de Kolwezi, ville située à 300 km au nord de Lubumbashi. Le responsable local de la SNEL contacté affirme que la nouvelle tarification est décidé par le gouvernement, propriétaire de l'entreprise.
Au Kasaï oriental, les commerçants de différents marchés de la ville de Mbujimayi revoient les prix de leurs marchandises à la hausse.
La raison principale est la crainte de la rareté prochaine des vivres et produits manufacturés suite à la coupure de la route nationale numéro 1 à hauteur du ravin Chiamba. La FEC locale qualifie cette hausse de simple spéculation de la part de ces marchands.
Et un comptable de l'administration publique du territoire de Lusambo au Kasaï oriental est aux arrêts.
Il est poursuivi par le parquet de grande instance pour avoir prélevé 518 000 francs congolais sur chaque salaire des 323 enseignants. Le procureur de la République affirme que ces fonds ont compensé les frais de déplacement et de logement pour la récupération de l'enveloppe salariale à Mbujimayi. Le procureur de la République qui désapprouve ce comportement indique que le comptable a consigné ses titres et propriétés d'une parcelle et a accepté de restituer cet argent.
Et le sel et le sucre ont baissé de prix à qui?
C'est la conséquence de l'arrivée de plusieurs tonnes de ces marchandises en provenance de Kalemi via le train SNCC la semaine dernière. Du coup, un sac de sucre de 50 kg qui se vendait déjà à 97 000 francs congolais s'achète maintenant à 70 000 francs congolais. Et pour le sel de cuisine, de 35 000 francs le sac de 50 kg, on est à 29 000 francs. Ce qui fait qu'un sac combi se vend maintenant à 600 francs au lieu de 800 francs.
La nouvelle économique au bout du fil.
La nouvelle au bout du fil de ce mardi soir nous emmène dans le Bas-Congo, à Matadi plus précisément, rejoignant Guy Roger Nyampala. Guy Roger, bonsoir. Nous apprenons qu'un conflit oppose les habitants du territoire de Tchela et une société locale. Qu'est-ce qui est à la base de ces conflits?
Tout à fait, Jocelyne Moussa Opondé. En fait, Tchela, c'est à plus de 200 km à l'ouest de Matadi. Il s'agit précisément des populations du village Minyezé. Hier lundi, près d'une centaine se sont présentées devant le bureau du commissaire de district du Bas-Fleuve à Tchela pour exprimer leur mécontentement suite à l'arrestation de trois des leurs depuis le vendredi dernier par les forces de l'ordre pour un problème lié à la terre. Alors, ils se sont présentés aux autorités pour que eux également soient arrêtés en signe de solidarité à leurs frères.
Et pourquoi ces trois personnes ont été arrêtées, Guirogé?
Jocelyne, selon les habitants du village Minyezé, la société des cultures et industries agricoles de Mayom, SCAM en sigle, les reproche d'avoir cultivé dans sa concession. Les habitants de ce village estiment que cette arrestation est illégale dans la mesure où ils exercent tous des activités champêtres dans cette forêt depuis des années. Aussi réclament-ils leur droit de cultiver sur un terrain disputé qui, selon eux, leur reviendrait de droit, et le droit foncier de la SCAM sur ces étendues étant déjà devenu caduque, allégation que Jocelyne, la SCAM rejette catégoriquement en brandissant des documents délivrés en bonne et due forme.
Et avez-vous l'avis des autorités du district?
Oui, Jocelyne, ses habitants ont été reçus par le commissaire du district du Bas-Fleuve qui a promis de suivre de près ce dossier pour qu'une solution soit trouvée dans un délai raisonnable. Mais il faut tout de même signaler que le conflit foncier entre la SCAM et les populations autochtones de cette contrée remonte à plusieurs années déjà, mais n'a pas encore trouvé une solution durable. En 2004, par exemple, la population autochtone avait introduit une requête auprès des autorités locales pour qu'elles récupèrent la forêt cédée à la SCAM, terre qui n'a pas encore été exploité jusqu'à.
Espérons que cette fois-ci, la solution sera durable. Merci, Guirogé Niampala.
Merci, bonne soirée.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Berry Lutchaka.
Berry, la Banque mondiale annonce 1 milliard de dollars pour 6 pays africains.
Il s'agira d'aider les pays à développer les énergies renouvelables et préparer leur adaptation au changement climatique, a annoncé la Banque mondiale dans un communiqué. Le Mozambique, le Niger et la Zambie recevront 50 à 70 millions de dollars chacun, tandis que le Maroc, l'Afrique du Sud et l'Égypte bénéficieront des prêts à très faible taux d'intérêt d'un montant respectivement de 150, 500 et 300 millions de dollars pour renforcer leurs investissements dans les énergies propres, précise la Banque mondiale.
Et l'or dépasse les 1100 dollars l'once.
C'est un nouveau record absolu sur le marché londonien. Il se négocie précisément à 1111,20 dollars l'once, et ce après la confirmation d'achat d'or par la Banque centrale du Sri Lanka. Il faut dire que la faiblesse du dollar incite les investisseurs à acheter de l'or pour préserver la valeur de leur patrimoine et se munir et se prémunir contre les craintes d'inflation à long terme. La RDC dispose également d'une réserve d'or de 650 tonnes qui sera exploitée par Randgold, une multinationale sud-africaine.
Merci Berry et Franklin Lutchaka pour ces informations internationales. Voici la deuxième partie de Écho d'économie.
Écho reportage.
L'éco-reportage de ce soir au Kasaï oriental, les activités de la Congolaise des hydrocarbures Cohydro en sigle ont repris dans ces coins du pays. Cette entreprise étatique vend de nouveau les produits pétroliers après environ 4 ans d'interruption. À l'annonce de la rouverture de la Cohydro, la station a été prise d'assaut par les clients. Éco-reportage, Niki Mputu.
Ils étaient nombreux, ces consommateurs des produits pétroliers qui attendaient de plein pied le moment où le carburant devait s'acheter au prix recommandé au Kasaï oriental, soit 1121 francs congolais. Ce défi vient d'être relevé par la Congolaise des hydrocarbures, Cohydro, cette entreprise étatique qui a une succursale en Mbujimayi. Une vraie surprise pour les consommateurs du Kasaï oriental, habitués à la spéculation de la part des stations privées et revendeurs communément appelés Kadhafi.
Comme par hasard, je suis passé là avec Cohydro, j'ai trouvé des pompes à masse et j'achetais les carburants. Vous savez, en Mbujimayi, nous avons connu des problèmes sérieux. On a acheté les carburants jusqu'à 1700, 1800. Mais à ma grande surprise, on m'a servi les carburants à 1121 bien. Vraiment, c'était pour moi une très bonne chose.
Après environ 4 ans d'interruption, la Cohydro veut de nouveau être au service de la nation. Mais elle lit ce moment de sécheresse aux différents changements de comité de gestion à la tête de l'entreprise, ce qui affectait sensiblement sa trésorerie. François Lusanga Ngissou, représentant provincial de Cohydro.
Il y avait au moins 2 ans et demi qu'ils n'ont pas été ravitaillés. Et cela aussi est causé par les changements des comités de gestion. Mais nous saluons et nous apprécions cette comité de gestion qui a permis qu'après au moins une longue durée de sécheresse qui a pensé à notre cassage, nous avions un problème de trésorerie. Et le chemin de fer pose problème parce qu'il y a trop de déraillements. La comtesse aussi pensait nous réserver un traitement aussi particulier parce que quand nous cohydrons, nous avons des produits, c'est tout le monde qui jubile.
D'après la Fédération des entreprises du Congo, il s'agit là d'un pas que vient de faire la province en termes d'achat de carburant. Elle invite les opérateurs économiques à saisir cette opportunité. Quant à la Cohydro, la FEC demande une pérennisation de l'action.
Il y a la ville de Mbujima qui récupère quand même sa vie. Pour autant qu'à un certain moment, à une époque donnée, le carburant a coûté trop cher. On a acheté les litres jusqu'à 3 500. Mais quand il y a déjà des stations qui s'installent et qui commencent à vendre, c'est déjà une bonne chose. C'est une contribution pour l'économie de la province en général. Ce que nous pouvons demander à Cohydro, c'est de s'investir pour qu'il y ait pérennité. Au lieu d'interrompre encore les activités, et là, ça ne sera pas du tout bien.
La Cohydro affirme disposer encore d'un stock important de produits de l'ordre de 350 mètres cubes pour le gasoil et 250 mètres cubes de l'essence. Elle affirme que cela suffira amplement pour qu'elle rende service à la nation. Notons que cette entreprise étatique a recouru à la structure des prix de carburant applicable au 20 octobre 2009 qui fixait le prix d'un litre d'essence à 1126 francs congolais et celui du gasoil à 1121. Mbujimayi, Nikem Poutou, Écho d'économie.
L'entretien de ce soir.
L'entretien de ce soir, c'est avec Michel Sobué, administrateur délégué de la FENAPEC, la Fédération nationale des artisans des petites et moyennes entreprises du Congo. Michel Sobué, vous venez d'être élu administrateur délégué à la FENAPEC. À quel état la trouvez-vous ? En bonne santé, convalescent, malade ou en situation de progrès ?
Écoutez, j'ai trouvé la FENAPEC dans une situation très difficile, mais ce n'est pas la situation de la FENAPEC, c'est la situation de l'économie nationale dans son ensemble.
Mm-hmm.
La FENAPEC s'est trouvée dans des très vives difficultés, parce qu'il est le reflet, en fait, de la santé économique et financière de la petite et moyenne entreprise congolaise. Vous savez qu'aujourd'hui, au Congo, quand on parle de la classe moyenne, au Congo, en réalité, ce ne sont pas des Congolais. La classe moyenne congolaise, en réalité, ce sont des expatriés qui viennent ici, qui deviennent la classe moyenne au Congo, et c'est pas normal. Dans aucun pays du monde, cela ne se fait. C'est pour ça que la FENAPEC s'est dotée à côté d'elle-même, s'est dotée d'une branche financière, la coopérative, de panier de crédit, qui, pour ne pas s'arrêter à l'accompagnement au simple rôle de syndicat et d'accompagnement technique, ils doivent accorder maintenant à ses membres également les chances sur le plan financier. Parce que ceux qui nous rivalisent ne sont pas forcément ni plus intelligents ni plus riches, mais ils ont seulement la chance d'accéder à des crédits dans leur pays d'origine. Alors pourquoi nos Congolais, nos petits et moyens entreprises, nos artisans congolais ne peuvent pas accéder aux crédits? Parce que les banques nous compliquent, et souvent les banques nous compliquent, pourquoi? Parce que ce sont des banques étrangères, et c'est connu de tout le monde, excusez-moi, je ne suis pas xénophobe, mais tout le monde sait que les banques qui fonctionnent au Congo sont toutes à capitaux étrangers.
Et c'est avec quel capital est-ce que vous avez aussi bénéficié d'un quelconque appui?
Mais jusque maintenant, la coopérative des paniers de crédit de la FENAPEC, si c'est d'elle que vous parlez, elle a été créée avec des capitaux exclusivement des membres de la FENAPEC, c'est eux qui ont mis leurs moyens à contribution. Bien sûr qu'aujourd'hui, nous avons entendu une possibilité que la société financière internationale pourrait probablement envisager la possibilité, je veux excusez-moi de répéter, pour envisager la possibilité de nous accompagner d'une façon ou d'une autre pour que nous disposions des ressources beaucoup plus costauds qui puissent être largement à la hauteur de nos défis. Mais ce n'est pas ça que nous attendons. Nous n'attendons pas de l'aide ni de la gauche ni de la droite. Nous pensons que nous sommes capables de fonctionner efficacement et de faire la concurrence dans les jours qui viennent à toutes les institutions financières, nos partenaires.
Et est-ce que vous attendez à quelque chose de la part de l'État, par exemple, pour accompagner les petites et moyennes entreprises?
Oui, d'abord, nous attendons de l'État le respect de ses propres lois. Nous attendons de l'État une attitude responsable envers son économie nationale. Et en cela, nous avons formulé notre demande de façon claire et nette auprès du ministre des PME pour lui dire, à titre simplement d'exemple, qu'il y a par exemple la loi sur l'exercice du petit commerce au Congo qui doit être respectée. Il y a des problèmes que nous avons vis-à-vis de l'État et de la petite et moyenne entreprise congolaise. Traîne des arriérés, des impayés énormes, une créance énorme sur l'État, dans le cadre de la dette publique intérieure. La dette intérieure en faveur de la PME n'est pas payée du tout, ou quand elle est payée parfois avec des décotes qui vont jusqu'au-delà de 80%, c'est pas normal. Si on veut renforcer son économie, ce n'est pas en privilégiant le paiement de la dette extérieure, pendant qu'il y a des Congolais qui fonctionnent déjà sans aide, sans assistance financière de nos banques, qui crient pour trouver de l'argent afin d'investir, et que quand ces gens-là parviennent quand même avec leurs moyens de bord à conclure des marchés, à gagner des marchés publics et à rendre des services conséquents à l'État, il est quand même juste, permettez-moi le terme, il est quand même juste que l'État se fasse le souci d'honorer ses obligations envers, d'abord, ses nationaux qui se sont tués plutôt que de payer d'abord la dette extérieure dont nous connaissons tous le caractère publiquement, internationalement décrété, odieux et immoral.
Pour terminer, quels sont vos défis par rapport à la CNAPEC elle-même et par rapport à notre pays qui est en situation en post-conflit?
Nous avons tout un combat énorme que nous devons mener, d'abord pour que la petite et moyenne entreprise devienne une entreprise compétitive. Nous devons parvenir à sortir le citoyen congolais de la pauvreté dans laquelle il se trouve, parce que chaque citoyen congolais constitue pour nous un potentiel d'entreprise. C'est une entreprise potentielle. S'il ne peut pas trouver un emploi auprès d'un de nos membres, il doit au moins être capable d'être lui-même un générateur d'emploi, une entreprise en lui-même qui crée de l'emploi pour les autres. Parce que ce n'est pas une pauvreté normale, c'est une pauvreté artificielle qui est entretenue par des idéologies, par des états d'esprit, etc.
Michel Sauboué, merci d'avoir répondu aux questions de Écho d'économie. Et c'est avec vous que nous terminons Écho d'économie, qui a été présenté par Jocelyne Moussaoupondé, élaboré par Berry Franklin, Luchaka, Gatompona, Daniel Tambizoni, Augustin Ingala, sous la supervision de Ben Kabamba. Merci et bonne soirée.